Oscar Huguenin, Nos vieilles gens. L'apprenti tailleur. Chapitre 4. Regardez-moi donc ce tas de neige, papa, maman. Y en a-t-il ? Quel bonheur ! Oui, il y en avait, le lendemain, autant que j'avais pu le souhaiter. Elle était tombée toute la nuit, et la provision ne paraissait pas près de s'épuiser, car les larges flocons continuaient à descendre du ciel en bataillons serrés. On ne voyait plus au dehors qu'un tapis éblouissant, où murs, barrières, tas de bois enfouis, dessinaient de molles ondulations. Au bord des toits, le moelleux tapis retombait en lourdes draperies, qui ne se maintenaient que par un miracle d'équilibre, et au dégel s'écroulerait en sourdes avalanches. Oh, la belle neige! Et quel plaisir de voir tomber paisiblement ces innombrables flocons, rideaux mouvants et si épais qu'ils nous masquaient la vue des maisons du quartier du coin, à une portée de fusil de chez nous, et jusqu'aux sapins plus voisins encore du pâturage communal. Il y en a au moins 2 pieds et demi, youhou ! M'écriai-je radieux en rentrant après avoir déblayé la porte d'entrée et le devant de la maison. Et merci, elle est lourde comme tout, il m'a fallu prendre la pelle. Avec le balai de biole, le balai de boulot, on n'y pouvait rien. J'en aurais à brasser, ajoutai-je, pour aller à Miéville faire ma commission chez Bloom. J'avais dit cela en consultant du regard ma mère en train de verser le lait brûlant dans les tasses. « On peut attendre que le triangle ait fait le chemin, » fit-elle en réponse à mon observation. « Ça n'ira pas longtemps, je pense. »« Eh non, bien sûr, » appuya mon père. « D'ailleurs, finalement, » ajouta-t-il avec un léger haussement d'épaule, « rien ne presse tant avec ses habits. Les nôtres sont encore bien mettables, au moins les miens. » Ma mère posa son pot de lait sur la table avec un mouvement d'impatience. « Ah, ça !» fit-elle d'un ton indigné en mettant ses poings sur les hanches. « J'espère qu'on ne va pas revenir en arrière, à présent qu'on a bien combiné les affaires pour que tout le monde soit content. »« Mais non, je ne dis pas ça !» fit mon père avec une bonhomie conciliante. « Seulement... »« Ma fille, ça en avait quasi l'air !» interrompit ma mère avec sévérité. « Dans tous les cas, ce qui est décidé est décidé. On a dit que ce serait Bloom qui ferait vos habits, à toi et à Charles-Auguste, et Félix-Henri Peter, ceux de ton filleul. Qu'on s'y tienne. Charles-Auguste, tire ton tabouret près de la table, que tu ne sois pas toujours à te chambrouler, et mets-moi tremper un peu plus de croûte que ça dans ton lait. » Une heure plus tard, nous étions à notre établi, mon père et moi, quand un grand bruit de grelots, de claquements de fouets et de cris de « Hu, ho, hu, ho » retentit au dehors. « Youhou, le triangle !» m'exclamai-je en jetant ma lime sur l'établi. « Papa, est-ce que j'ose ?»« Va seulement, va !» Je ne fis qu'un bond de mon établi jusqu'au seuil de notre porte d'entrée. C'est que le spectacle valait la peine d'être vu d'aussi près que possible. 6 robustes chevaux de paysans, montés par leur propriétaire qui les excitait de la voix et du fouet, se frayaient un passage dans la profonde couche de neige qui leur montait presque jusqu'au poitrail. La lourde machine, bardée de ferrures, qu'ils traînaient vaillamment, était maintenue dans la bonne direction par 2 cantonniers qui faisaient office de pilotes, pesaient tantôt à droite, tantôt à gauche sur les fortes barres servant de gouvernail. Par derrière venait une escouade d'hommes de corvée, armés de pelles, qui devaient, en cas de nécessité, ouvrir une tranchée à travers les amoncellements de neige trop profonds ou trop tassés par le vent pour que les chevaux puissent en venir à bout. Le cas se présentait régulièrement, un peu au-delà de chez nous, à l'endroit où le triangle retournait sur ses pas pour aller compléter son œuvre dans les quartiers de Miéville et de vers l'église. Le vent formait, en cet endroit, une de ces hautes dunes qu'aux montagnes on appelle menées, et que le triangle est impuissant à franchir sans l'aide de la pelle. Les hommes de corvée le savaient si bien que d'avance ils prirent la tête de la colonne et à grande foulée, à travers la couche de neige où ils enfonçaient jusqu'aux cuisses, ils allèrent attaquer la menée à coups de pelle. Les chevaux, tout fumant, s'étaient arrêtés et s'ébrouaient bruyamment. Un de leurs conducteurs ôta sa pipe de la bouche pour crier en patois, du haut de sa bête, à mon père qui m'avait suivi sur la porte. « Hé, Alfred, qu'a dit, Le voyak m'as ben. Et Alfred, qu'en dis-tu? L'hiver commence bien. Tant mieux, répliqua gaiement mon père. N'est-ce pas demain la foire de la chaux? Tu sais ce que nos vieux disent, Justin. À la fère de la chaux, la neige tue le pot, s'elle n'y est pas, là l'y faut. À la foire de la chaux, la neige est sur les pieux, les jalons au bord des routes. Si elle n'y est pas, il l'y faut. Vélinc, vélinc, fit l'autre d'un ton narquois. Les villis disent géré, l'on mort, l'on jacquois. Voilà, voilà, les vieux disent aussi l'on mort, l'on queue, c'est-à-dire quand l'hiver commence tôt, il dure longtemps. Cette joute à coups de dicton ne m'intéressait guère. Il me venait une idée. Si j'obtenais de mes parents l'autorisation de monter sur le triangle pour aller à Miéville m'acquitter de la mission esquivée la veille. Quel rêve! On ne m'avait permis de goûter cette jouissance qu'une fois en ma vie, pour gagner l'école, un jour de tourmente. Et le délicieux souvenir qui m'était resté de cette façon peu banale de voyager m'avait souvent fait souhaiter de retrouver une occasion semblable. « Père, » dis-je en tirant doucement mon père par la manche, « si je profitais du triangle pour aller faire ma commission chez Bloom, les hommes veulent bien me laisser monter dessus, je ne gênerai pas. » Mon père me regarda avec un sourire bienveillant qui est resté gravé dans ma mémoire. « Si ta mère en est, je n'ai rien contre. L'idée n'est pas mauvaise. Tu ne te mouillerais pas les jambes, et puis comme ça, cette histoire d'habit ne traînerait pas. C'est une chose à considérer. » Je compris à son clignement d'œil qu'il voulait me fournir des arguments à l'appui de ma requête et me promit de les faire valoir. Courant à la cuisine, où ma mère ne s'était pas laissée distraire de ses devoirs de ménagère par le passage du triangle, « Maman, criai-je avec volubilité, voilà une bonne occasion de faire tout de suite ma commission chez Bloom sans trop me mouiller les pieds. Le triangle va tourner pour aller contre Miéville. Je peux aller dessus, qu'est ?» Ma mère réfléchit un moment avant de répondre. Elle ne décidait jamais rien à la légère. « Pourquoi n'attendrais-tu pas que le triangle ait ouvert le chemin ? En partant une demi-heure après ?»« Oui, mais... » interrompis-je alarmé à l'idée que la partie de triangle courait le risque de m'échapper. « Ce ne serait pas la même chose. Tu comprends, sur le triangle, j'aurais les pieds au sec, au moins en allant. » C'était prendre ma mère par son faible. S'il y avait une chose qu'elle redouta pour son fils, c'était de le sentir exposé à avoir les pieds trempés. « Et puis, ajoutai-je, il faut voir comme il neige. Tout de suite, les chemins vont être rebouchés, et si on attend trop... Quels souliers as-tu mis ? Interrompit ma mère en inspectant mes chaussures. « Ceux que j'ai graissés hier soir, au moins. Bon, tes guêtres sont sèches, je les avais pendues à la porte de la cavette. Viens que je t'aide à les boutonner. » Il ne s'agit pas de laisser repartir le triangle sans toi à présent. Ne lambinons pas. Par exemple, il n'y avait pas de danger. En un rien de temps, je fus guêtrée, emmitouflée dans le manteau verdâtre que ma mère avait extrait d'un carrick à trois collets de son père, et j'arrivai juste à temps pour voir le triangle à demi refermé, virer de bord comme un vaisseau obéissant au gouvernail, et repasser devant notre maison avec son équipage d'hommes de corvée juchés sur les bords. Mon père s'était avancé avec moi et les interpellant gaiement. « Y a-tu en quoi un petit car, poses-tu si, qui va du fion de Mivella ? Y a-t-il encore un petit coin pour celui-ci qui va du côté de Miéville ?»« Bah, il aimait, » répondit le vieux cantonnier Jacquet en tendant les bras par-dessus le rempart de neige, refoulé par la lourde machine. L'instant d'après, j'étais installé tout radieux à l'extrême pointe du triangle et ma mère, inquiète de me voir si près des chevaux, me criait du seuil de la porte. « Tire-toi en arrière, Charles-Auguste, miséricorde, si ces bêtes venaient à ruer !» Plusieurs de mes voisins, des jeunes gens, se mirent à rire en échangeant des remarques moqueuses au sujet de ces transes maternelles, mais le vieux cantonnier les regarda sévèrement et m'obligeant à changer de place, il dit au rieur à voix contenue et d'un ton indigné « N'y vaura des vergognes !» Prédidence à des enfants. N'avez-vous pas honte, parler ainsi à des enfants ? Les rieurs haussèrent les épaules, sans rien répliquer cependant à la remontrance du vieillard. notre pesant véhicule glissait maintenant sans effort en redescendant la pente qu'il avait déblayée si péniblement. Mais la rude tâche des chevaux et celle des hommes de corvée allait recommencer. Le quartier du Cré étant bâti sur deux pentes, dont l'une, celle au sommet de laquelle nous demeurions, s'élève vers le Locle, et l'autre, le Cré de la maison de ville, monte dans la direction de la Chaux-de-Fonds. Sur cette dernière pente, le chemin n'était pas encore frayé. Quand il fallut l'attaquer, les cris, les claquements de fouet des conducteurs éclatèrent de plus belle, et l'escorte des pionniers se remit en marche derrière le triangle, en attendant de se porter à l'avant-garde, quand une menée infranchissable arrêterait les chevaux. Le cas se présenta au tournant des Chézeaux, un peu avant d'arriver en face de la maison du Crétet, où la veille au soir, j'avais installé l'apprenti tailleur chez le père Soubise. « À propos, pensais-je, je m'étonne comment ils vont ensemble. Il faut que j'y passe en revenant de chez Blum. » Personne ne se montrait devant la petite masure, mais André était occupé à sa cuisine, car un léger panache de fumée s'échappait de la cheminée à bascule entrebâillée. « Et tout de même, me dis-je avec un petit mouvement de vanité, sans l'idée que j'ai eue, comment le vieux Soubise aurait-il fait son déjeuner ce matin? Comment aurait-il chauffé son fourneau? Et André, si je ne lui avais pas trouvé cette engaine, il était sûr de son affaire, lui qui voulait aller se réduire par derrière chez le justicier Richard. On l'aurait trouvé gelé raide. » Une brusque secousse interrompit le cours des congratulations que je m'adressais. Sans savoir comment, je me trouvais le nez dans la neige entre les deux parois du triangle. La voie était frayée. Les six chevaux s'étaient remis en marche et avaient enlevé leur machine avec ensemble. Le vieux cantonnier, qui avait failli me rouler aux pieds, me happa par le col de mon manteau et me mit sur mes jambes, tout en disant d'un ton de reproche « Sacardi, bweb, t'echeved et baille à voued. Sacre bleu, garçon, tâche donc de prendre garde. » J'arrivai sans autre aventure jusqu'en face de la maison qu'habitait le tailleur et descendis de mon triangle avec le regret que le voyage n'eût pas duré plus longtemps. « Bien obligé, » fis-je au vieux cantonnier qui me faisait un signe d'adieu amical, et j'enjambai non sans peine le haut rempart de neige formé par le triangle. Tout en me débarrassant devant la porte d'entrée de la neige qui tapissait mes jambes, je me disais « À présent, il s'agit de faire semblant de rien avec Maître Blum. Il ne faut pas qu'il aille se douter que je sais quelque chose à propos de son apprenti. » J'enfilai le corridor d'où, la veille au soir, j'avais vu André brutalement expulsé par son maître, quand le bruit d'une altercation violente partant de la cuisine me fit faire halte et murmurer. « Bon, le voilà qui refait une scène à quelqu'un, à sa femme, je pense. Dans tous les cas, on lui tient tête, tant mieux. » J'écoutais sans le moindre scrupule. Les enfants n'en ont guère de ce genre, et puis je me doutais qu'il devait être question de mon protégé. D'abord, je ne compris pas grand-chose à l'averse de propos violents, émaillés d'injures, qu'échangeaient les époux, et cela d'autant plus que le langage du mari était un amalgame confus de français incorrect et de patois allemand, avec assaisonnement de jurons dans les deux langues. Quant à Madame Blum, qui était du pays, une Guinan des Brenets, à ce que j'appris plus tard, j'eusse pu mieux saisir le sens de ses paroles, si sa voix eut l'ampleur et l'éclat de celle de son seigneur et maître. Mais comment eût-elle pu lutter, avec son mince filet de voix, si criard fut-il, contre l'organe tonnant et les imprécations furibondes de Sieur Blum? Cependant, je finis par comprendre qu'il s'agissait d'André et de sa disparition, à ces mots lancés d'une voix perçante par la femme du tailleur. « Si la justice te demande compte de ce pauvre garçon, tu n'auras que… » Elle n'acheva pas. On entendit le bruit mat d'un soufflet sur une joue, suivi d'un cri aigu, puis le claquement d'une porte qu'on ferme. Un des deux époux devait avoir quitté la cuisine. Était-ce l'homme ou la femme? Je restais tout tremblant dans le corridor obscur, me demandant si je ne ferais pas mieux de m'en retourner comme la veille, sans m'être acquitté de mon message, au risque d'encourir les reproches, et peut-être un sévère châtiment de ma mère, quand la porte derrière laquelle j'étais aux écoutes s'ouvrit brusquement, et je me trouvai nez à nez avec le tailleur qui sortait. Il recula tout effaré au lieu de me demander ce que je faisais là. J'imagine que dans la figure immobile qu'il entrevoyait vaguement, sa conscience lui faisait voir le spectre de son apprenti gelé, revenu sur terre pour lui reprocher sa conduite inhumaine. L'illusion, naturellement, ne fut pas de longue durée. Aussitôt que je remuai et que Maître Bloom entendit ma voix, il reprit son aplomb et, à mesure que je m'acquittais de mon message, je voyais ses traits anguleux se détendre et sa longue figure déplaisante, terminée par une barbiche de bouc, grimaçait le sourire qu'il réservait au seul client. « Tout de suite, mon cheune ami, tout de suite, je allais chez Four à Fec. Foulez-vous attendre, moi, cher maître ?»« Je suis trop pressé, » interrompis-je du ton que prend quelqu'un qui n'a pas un moment à perdre. « Il faut que j'aille encore chez... Savez-vous où nous demeurons ?»« En haut du Cray, où le chemin du Locle quitte celui du coin. » Et je décampai en toute hâte. « Par exemple, » me disais-je en prenant le pas de course pour n'être point rejoint par le tailleur, « il n'a qu'à croire, ce vilain sire qui éreinte ses apprentis et qui flanque des gifles à sa femme, il n'a qu'à croire que je veux me montrer tout le long du Cray avec lui. Ma fille, non. D'ailleurs, c'est la pure vérité que je suis pressée. Ne faut-il pas que j'aille dire à André qu'il prenne garde de ne pas se montrer, que son gueux de maître va passer ? Je garantis qu'André est en train de déblayer le sentier du Crétet. Il ne s'agit pas que Bloom le voie. Merci, il l'agripperait, et alors ? Oh, c'est ça, le voilà, ça ne manque pas. » C'était l'apprenti que je voyais s'escrimer à grands coups de pelle sur la pente du Crétet. Sans ralentir ma course, je jetai un regard derrière moi. Non, le tailleur n'était pas encore en vue. De loin, j'appelai André en lui faisant signe de remonter le sentier qu'il venait de tracer. Ne comprenant rien à ma gesticulation forcenée, il restait, la pelle en l'air, à me regarder tout ahuri. J'arrivai sur lui comme une bombe et lui fis faire demi-tour. « File !» criai-je tout à le temps. « Va te cacher, Bloom arrive !»« Eh bien, après, » répliqua André d'un ton de défi, « qu'il vienne, si tu crois que j'en ai peur. » « Mais, » m'écriai-je avec une impatience fiévreuse, « tu ne comprends pas, il ne faut pas qu'il sache ce que tu es devenu. Pour qu'il ait assez de détresse, ça lui apprendra. Va, bouge !» Et je poussai André de toutes mes forces du côté de la petite maison. Il finit par se laisser faire et nous parvînmes sur le seuil au moment où, à travers les flocons de neige tourbillonnant, se dessinait confusément sur la route la longue silhouette du tailleur. « Entrons !» dis-je vivement en attirant André derrière la porte et poussant doucement le verrou. « Il ne doit pas nous avoir vus, mais le plus sûr, c'est de lui laisser le temps de passer. » Il va chez nous prendre mesure à mon père et à moi pour nous niper à neuf. Ça fait que je ne peux pas rester longtemps. Tu comprends? On a besoin de moi. » J'avais ajouté ce détail personnel avec un petit air d'importance. S'il n'avait pas fait aussi sombre derrière notre porte, j'aurais peut-être surpris un léger sourire sur les lèvres d'André. Nous passâmes sans bruit jusqu'à la cuisine, où je demandai tout bas à mon protégé comment il se trouvait dans sa nouvelle place. Pour ça, tu peux compter que c'est une autre paire de manches ici que chez Bloom, répondit-il à voix contenue, mais avec un contentement intérieur qui illumina sa pauvre figure souffreteuse. Monsieur Gentil a beau crier et sacrer quasi autant que Bloom, je suis sûre qu'il ne ferait pas de mal à une mouche. Ce n'est pas lui qui...
Ah, ça, cadet,
tonna tout à coup le vieux soldat.
« Avec qui complotes-tu dans les coins ? Crée mille millasses. Avance, à l'ordre, marche !»
André n'attendit pas une seconde injonction et entra en me faisant signe de le suivre.